Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité de cet après-midi s'appelle...
Jean Vito.
En gastronome impénitent, il signe pour vous une sélection musicale de 5 morceaux autour du thème du repas. Il s'agira de la dernière étape de cette semaine. Ça commence. Cette semaine, nous avons dit que le repas était très couramment, pour ne pas dire universellement, l'objet d'une ritualisation forte, déterminée par l'époque, l'origine sociale, les orientations religieuses ou politiques, qu'il était aussi le lieu d'expression pour des hiérarchies dans le groupe, entre les sexes et entre les générations. Nous avons dit que le repas pouvait être le lieu d'une curiosité sans bornes, d'une expression très poétique et d'une rêverie appliquée. Nous avons dit encore que les repas, surtout quand la liberté de réunion et d'association n'est pas au goût du jour, était l'occasion d'un échange d'idées et le lieu potentiel de sédimentation révolutionnaire. Nous avons dit enfin qu'ils étaient l'occasion d'une attention portée à l'autre, un soin, une écoute, une sorte de modélisation vivante de la rencontre. Vous pouvez vous régaler de ces 4 émissions. On s'occupe tout de suite de la 5e. Il est 16h, passé de 1 minute, vous écoutez France Culture et c'est pas la peine de crier. Sur le Polaroid du jour, un repas et des années. Sur le plateau du milieu, dernière étape de cette semaine donc, c'est un festin joyeux et un festin musical. Carte blanche musicale à Jean Vito à partir de 16h20. Vers 16h50, dernier hommage au poète Jean-Claude Pierrotte. Et à 17h, c'est Julie Gacon que nous retrouvons sur la route du 5 à 7. En attendant, dernière lecture aussi du côté de la bibliothèque de Jean-Claude Dreyfus. Il sort aujourd'hui pour nous de ses rayons littéraires « L'inondation », un texte d'Émile Zola. On l'écoute.
Je m'appelle Louis Roubieux. J'ai 70 ans. Et je suis né au village de Saint-Jory, à quelques lieues de Toulouse, en amont de la Garonne. Pendant 14 ans, je me suis battu avec la terre pour manger du pain. Enfin, l'aisance est venue, et le mois dernier, j'étais encore le plus riche fermier de la commune. Notre maison semblait bénie, le bonheur y poussait. Le soleil était notre frère. Et je ne me souviens pas d'une récolte mauvaise. Nous étions près d'une douzaine à la ferme. Dans ce bonheur, il y avait moi, encore gaillard, menant les enfants au travail, puis mon cadet Pierre, un vieux garçon, un ancien sergent, puis ma sœur Agathe, qui s'était retirée chez nous après la mort de son mari, une maîtresse femme, énorme et gaie, dont les rires s'entendaient à l'autre bout du village. Alors ensuite, venaient toute la nichée, mon fils Jacques, sa femme Rose et leurs 3 filles, Aimée, Véronique et Marie. La première mariée à Cyprien Bouisson, un grand gaillard dont elle avait 2 petits, l'un de 2 ans, l'autre de 10 mois. La seconde, fiancée d'hier, et qui devait épouser Gaspard Rabuteau. Et la troisième, enfin, une vraie demoiselle. Si blanche, si blonde, qu'elle avait l'air d'être née à la ville. Ça faisait 10, en comptant tout le monde. J'étais grand-père et arrière-grand-père. Quand nous étions à table, j'avais ma sœur Agathe à ma droite, mon frère Pierre à ma gauche. Les enfants fermaient le cercle. Par rang d'âge, une file où les têtes se rapetissaient jusqu'au bambin de 10 mois, qui mangeait déjà sa soupe comme un homme. Allez, on entendait les cuillères dans les assiettes, la nichée mangeait dur, et quelle belle gaieté! Entre 2 coups de dents, je me sentais de l'orgueil et de la joie dans les veines, lorsque les petits tendaient les mains vers moi en criant. Grand-père, grand-père, donne-nous donc du pain, grand-père, un gros morceau de pain, hein, grand-père. Ah, ah. Bonne journée, notre ferme en travail, chantait par toutes ses fenêtres. Pierre, le soir, inventait des jeux, racontait des histoires de son régiment. Tante Agathe, le dimanche, faisait des galettes pour les filles. Puis, c'était des cantiques que savait Marie. Des cantiques qu'elle filait avec une voix d'enfant de cœur. Elle ressemblait à une sainte, ses cheveux blonds tombant dans son cou, ses mains nouées sur son tablier. Alors je m'étais décidé à élever la maison d'un étage. Eh oui, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais là, on baigne dans le bonheur avec ce texte de Zola.
Vous n'avez même pas besoin de moi, Jean-Claude Dreyfus, pour désannoncer la lecture qui est faite.
Mais parce que s'arrêter comme ça, c'est très difficile. Parce que ce texte commence dans le bonheur pendant, on va dire, un bon quart d'heure. Et comme là, on est restreint, voilà, c'est une famille heureuse. Ça s'appelle l'inondation.
D'Émile Zola, donc.
D'Émile Zola. Et c'est une famille heureuse qui baigne, c'est presque honteux, dit-il, un peu plus loin, de baigner dans tant de bonheur. Les cultures, c'est un viticulteur, les vignes, tout, il n'y a pas de maladie, tout est bien, ça prospère, ils ont relevé, et heureusement, ils ont relevé déjà l'étage, la maison d'un étage pour les enfants qui vont venir habiter là. Tout le monde habite ensemble. C'est une très belle famille qui vit dans le bonheur complet. Et alors ce texte, qui est quand même universel, malheureusement d'ailleurs, est vraiment écrit, je vais vous dire, comme un reportage. C'est Zola, c'est extrêmement beau, bien écrit, on ne peut pas le nier. Et c'est vraiment écrit comme les reporters, vous savez, les grands reporters de guerre, d'antan, les reportages que l'on pouvait lire sur des catastrophes. Et là, c'est une catastrophe, puisque c'est l'inondation de la Garonne. Et vous savez, les premières fois où j'ai lu ce texte, c'est un texte que m'a confié un ami restaurateur, qui me confie des textes de temps en temps, Frédéric. Et j'ai lu ce texte et je me suis dit, bon, on pourrait en faire quelque chose. Mais bon, j'en fais des lectures que je fais avec de la musique, ou au piano avec Thomas Février, ou à la guitare électrique avec Nicolas Eretzmann. Et ce qui accentue vraiment le drame complètement. Et les premières fois que j'ai répété pour lire ce texte devant des gens, je suis allé au bout de... Bon, une fois que le bonheur est passé, je suis allé au bout de 20 minutes. Et évidemment, je ne pouvais pas lire parce que le texte était bien trop frais. Et je me suis dit, il faut que tu te contrôles, mon gars, quand même. Parce que c'est tellement écrit d'une façon magistrale que... Et bon, maintenant, j'arrive à me contrôler parce que c'est les gens qui doivent pleurer. Et pas moi, pour arriver à lire, ne pas avoir les yeux embués jusqu'à la fin. Et ça se termine. À la fin, je peux me permettre de pleurer, ça vient tout seul, parce que ça se termine d'ailleurs le texte par « et voilà, et je pleure ». Et qui est le seul qui reste, c'est Louis Roubieux, l'ancien, le plus âgé, et tout le monde, bon, on ne devrait pas en parler, parce que si les gens viennent et vont venir cet été, je fais une ou deux fois des lectures, et tout le monde part, tout le monde meurt, c'est une catastrophe horrible. Et le seul qui reste, c'est le vieux qu'on a protégé, évidemment, parce qu'il est vieux, il peut moins bouger facilement, monter. Il reste, je voulais jouer ça avec des amis de Toulouse qui ont une très belle compagnie de marionnettes. Et je voulais faire ça avec des marionnettes. Et puis finalement, on n'a pas encore trouvé le moyen de faire ça avec des marionnettes. Je fais simplement cette lecture avec de la musique et c'est très fort. Rien que ça, ça suffit. Et la compagnie s'appelle Créature, de ses amis mais qui font des marionnettes. Et je vous les conseille. Ils jouent beaucoup autour de Paris aussi pour les enfants. Ils font des spectacles extrêmement pointus et magnifiques. Et c'est des gens, ils font des marionnettes de toute taille, des toutes petites qui pourraient être sur mes bras, par exemple, comme ça, ou des immenses sculpture, et un jour je le ferai, parce que ça vaudrait vraiment le coup, et c'est un truc que je peux faire malheureusement partout où il y a, vous regardez, vous ouvrez la télévision, vous avez partout dans le monde des inondations et des catastrophes, et on n'a pas réglé le problème, puisque on nous coupe toutes les haies, on ne règle pas vraiment ce problème des inondations, je crois qu'avec le temps on les accentue plutôt.
Quelle musique vous voulez mettre après ce texte-là ?
Eh bien, je vais mettre, puisque je joue très souvent avec Nicolas Eretzmann, il a composé un très beau morceau qui s'appelle Constellation. Et d'ailleurs, il va sortir un album sur le net le 19 septembre.
Jean-Claude Dreyfus est sur la scène du Théâtre de la Rive Gauche à Paris en ce moment. Et la semaine prochaine, c'est la comédienne Ava Hervier qui déballe sa bibliothèque. On y entendra 5 merveilleuses lectures. Marguerite Duras, Guillaume Sauzet, Diana J. Torres, Valère Novarina et Jeffrey Eugen Hides. Réservez tous vos goûters sans exception. Ici, à 7h, c'est Mayonnaise d'images sonores. Si ça prend, c'est le Polaroid. Nous, le petit monde, rassis pour le dessert, on restait à écouter les histoires lestes que dans le relâchement des fins de repas, l'assemblée, oubliant les jeunes oreilles, ne retenait plus. Les chansons de la jeunesse des parents qui parlaient de Paris, de filles tombées au ruisseau, de gigolettes et de rôdeurs de barrières, le grand rouquin, l'hirondelle du faubourg, du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule, des romances de grande pitié et de passion auxquelles la chanteuse, les yeux fermés, se donnait de tout son corps et qui faisait monter des larmes essuyées du coin de la serviette. À notre tour, nous avions le droit d'attendrir la tablée avec Étoile des Neiges. De main en main, passaient des photos brunies, au dos taché par tous les doigts qui les avaient tenues dans d'autres repas, mélange de café et de graisse fondue en une couleur indéfinissable. Dans les mariées raides et graves, les invités de la noce s'étageant sur plusieurs rangs le long d'un mur, on ne reconnaissait ni ses parents ni personne. Ce n'était pas soi non plus qu'on voyait dans le bébé de sexe indistinct à demi nu sur un coussin, mais quelqu'un d'autre, une créature appartenant à un temps muet et inaccessible. Au sortir de la guerre, dans la table sans fin des jours de fête, au milieu des rires et des exclamations, on prendra bien le temps de mourir, allez. La mémoire des autres nous plaçait dans le monde. Le texte du Polaroid était un extrait des années d'Annie Ernaux. Nous écoutions ensuite la prière après le repas, interprétée par l'ensemble vocal Clément Jeannequin. Extrait du disque Les plaisirs du palais, c'est un avant-goût de la carte blanche musicale autour du thème repas que Jean Vito signe pour vous. Il commente ses choix dans un instant. Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, il est 16h passées de 19 minutes, c'est la deuxième partie de notre émission et le dernier moment de cette semaine construite autour du mot repas. Je rappelle le principe, chaque semaine nous imaginons une série d'émissions autour d'un thème, toutes les disciplines sont convoquées pour aborder ce thème de quatre façons différentes et le vendredi c'est musique. Un invité décline librement le thème en cinq morceaux musicaux et les commente. Aujourd'hui, le repas donc. Nous avons commencé par la fin avec cette chanson de Tablé, repu, souvent ivre, et les histoires de famille qui se disent aussi vite que ne se vident les verres. Nous poursuivrons avec des musiciens gastronomes, quelques savants mélanges de saveurs à l'orgue, du champagne évidemment, et une recette à appliquer sans rire et en chantant. C'est dans le désordre et à peu près le chemin que vous proposez de suivre cet après-midi. Jean Vito, vous êtes gastronome, amateur de bonne chère, comme on dit, gastro-entérologue dans le civil, c'est comme ça qu'on dit aussi. Vous avez publié de nombreux livres sur le sujet, la gastronomie, un que sais-je, publié au PUF, dictionnaire du gastronome, la mondialisation à table, les petits plats de l'histoire, le dessous des plats, et le dernier, Grimaud de la Reynière, l'inventeur de la gastronomie, florilège de ses principales œuvres présentées par vous pour les surdoués, pour tout le monde en fait.
Pour tout le monde.
Aux éditions France Empire, bonjour et
bonjour.
Merci d'être ici. On va commencer par commenter le premier titre qu'on a entendu, cette prière après le repas interprétée par l'ensemble Clément Jeannequin. Pourquoi ce titre ? Pourquoi ce choix ?
Eh bien, ce choix, c'est que le repas, c'est quand même un moment d'exception. Un moment où tout se mélange, à la fois les plaisirs du palais, le plaisir de la chair, le plaisir du vin, et également celui de la conversation. Je vous dirais même qu'à mon avis, un repas, c'est un moment de culture gastronomique et de culture générale, où tous les sujets peuvent être abordés, sans crainte, sauf dans les périodes troublées, car Grimaud de la Reynière, justement, nous dit que pendant la Révolution, les chants révolutionnaires avaient troublé la table. Mais je pense qu'il faut considérer le repas comme un moment de partage et de culture. C'est donc quelque chose, un instant qui se répète certes souvent, mais qui est souvent un instant à part dans notre vie où nous sommes libérés de certaines contraintes pour nous adonner à des conversations libres, à des conversations sur des sujets qui ne sont pas les nôtres habituellement, donc ça nous ouvre l'esprit. Et également l'appétit, car une bonne partie de la discussion au cours d'un repas consiste à dire et à penser ce que l'on a pensé des différents repas et des différents mets qui vous ont été servis, de les comparer à ceux que vous avez vus et mangés dans le passé, de les comparer par rapport à ce qui en a été dit. Et Madame de Maintenon, à la cour de Louis XIV, disait « Les petits pois, on en parle avant de les avoir mangés, pendant qu'on en mange et après les avoir mangés ». Et donc, comme ça, cela entretenait la conversation pendant toute l'année. D'autres disent que la saison des truffes est malheureusement courte dans l'année, mais cela permet d'en saliver et d'en parler pendant toutes les périodes où elles ne sont pas récoltées.
Est-ce qu'il y a un lien inévitable entre musique et repas ? Lorsqu'on vous a proposé cette invitation de décliner le thème repas en musique, est-ce que ça vous a paru facile ?
Eh bien, heureusement que j'avais quelques références personnelles parce que...
C'est quand même pour ça qu'on est venu vers vous.
Dans le... de tous les sens, Louis est peut-être celui qui a le moins de rapport avec la gastronomie. La vue, c'est évident, devant le plat. L'olfaction et le goût, c'est non moins évident. Le toucher, la mâche des aliments, c'est le toucher. Mais Louis, on se demande bien pourquoi. Alors, certains même ont été jusqu'à dire que finalement, le plaisir devant un grand plat s'accompagnait d'un silence. C'est ce qu'ils ont appelé la paix des mandibules. Alors ça, c'est une façon de voir les choses. D'autres, comme le poète Paul Harel avait célébré le bruit des aliments pendant leur préparation et pendant leur cuisson. Il disait, à propos de la musique du boudin qui grésille dans la poêle, « Palpitant, crépitant et crevant sur le grill, les boudins sifflent mieux que Merle en avril », que cela a été joliment dit. Alors, il y a plusieurs poètes qui ont écrit ça, comme le célèbre Paul Moncelet. C'est vrai que, globalement, la musique et la table, il faut chercher pour trouver des relations directes. Alors, il y a eu aussi le problème de la musique que l'on écoute pendant le temps qu'on est à table. Alors ça, ça a varié beaucoup suivant les époques. À l'époque de la Renaissance, ce que nous venons d'entendre était un bon témoin. Les chansons en fin de repas, également. Grimaud de la Reynière disait aussi « Tout finit en France par des chansons, surtout les repas ». Mais d'un autre côté, certains gastronomes jugent que la musique perturbe le repas. Et ils rejoignent en cela le gastronome romain Apicius qui avait dit cette phrase extraordinaire « Il ne faut pas mélanger les plaisirs ». Alors lui, il ne l'appliquait pas à la musique, mais il avait fait pour cela voiler les seins des serveuses.
Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt du genre, vous, à manger dans le silence ou à favoriser une chanson qui arrive comme ça par hasard par l'un des convives ou, je sais pas, par bonheur de manger à côté d'un orchestre ? Vous êtes de quel camp dans ce cas-là ?
Ça dépend du repas.
Ah oui ? C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que dans des grands repas ordonnancés comme ceux des sociétés gastronomiques, la musique est habituellement bannie. Mais chez soi, on peut entendre de la musique sans problème et on peut parler et chanter à table, en comité, sans l'ombre d'un problème. Cela ne pose aucun problème. De même que la conversation, ça fait partie du repas.
Ce que l'amour est au cœur, l'appétit est à l'estomac. L'estomac est le maître de musique qui freine ou éperonne le grand orchestre des passions. Manger et aimer, chanter et digérer sont les quatre actes de l'opéra bouffe qui a pour titre la vie. Celui qui la laisse s'enfuir sans en profiter n'est qu'un fou. C'est signé Rossini et on entendait, Jean Vito, sur vos conseils, sur vos souhaits, un extrait des quatre mendiants, quatre hors d'œuvre avec la pièce « Ama Perruche », qui désigne en fait les raisins. De quoi s'agit-il ?
Alors, les quatre mendiants, c'est une expression qui remonte à très loin, puisque c'est Huon de Toul, qui était évêque, qui avait expliqué à Louis XIII que les quatre mendiants, c'est-à-dire les fruits secs que l'on pouvait consommer dans le carême et que l'on donnait souvent en aumône aux ordres mendiants correspondait en fait à 4 ordres mendiants. Il avait dit que les amandes évoquaient la robe des dominicains, les figues celles des franciscains, les noisettes ou avelines celles des carmes des chaussées et les raisins secs, puisque nous en sommes là, ceux des augustins. C'est une vieille tradition et qui reste encore dans la gastronomie sous la forme de mendiants, c'est-à-dire des fruits, les fruits secs que l'on sert habituellement entourés de chocolat de nos jours, pendant notamment les périodes de fin d'hiver où il n'y a pas d'autres fruits et du carême qui se correspondent.
Pourquoi écouter Rossini alors, puisqu'on a parlé en introduction de ces musiciens alors, gastronomes.
Rossini, la vie de Rossini est quelque chose d'extraordinaire. Rossini compose très jeune une vingtaine d'opéras, puis arrête pendant 30 ans et ensuite compose son célèbre Stabat Mater. Et entre les deux, il a passé tout son temps à s'occuper de gastronomie. C'était un gastronome impénitent, ça c'est sûr, qui déjeunait avec tous les gens de son temps à Paris, et notamment avec Alexandre Dumas, sur lequel il a eu des controverses, car Alexandre Dumas, suite à un voyage à Naples, qu'il raconte dans un livre peu connu qui s'appelle Le Caricolo, n'aimait pas les pâtes. Et Rossini l'invitait à venir déguster ses pâtes. Il faut dire que les pâtes qu'avait imaginées Rossini étaient un peu spéciales, puisque c'était des grosses pâtes qu'il fourrait avec une seringue spéciale en argent, avec du foie gras, du parmesan et de l'huile d'olive.
Ça vaut le coup de se déplacer quand même.
Ça devait être un grand moment. Alors, Rossini est aussi célèbre pour son célèbre tourneau d'eau Rossini. Contrairement à la majorité des recettes qu'on apparaît de nom d'homme, celui-ci a vraiment été composé par Rossini. Donc Rossini est le prototype du grand gastronome du 19e siècle qui suit finalement, il en était en partie le contemporain, l'archi-chancelier Cambacérès ou le prince de Bénévent, Talleyrand Périgord.
Quand vous parlez de cette fameuse seringue intrigante à fourrer les pâtes au foie gras, est-ce qu'il faut entendre par là que Rossini lui-même cuisinait ?
Rossini cuisinait lui-même. C'était non seulement un gastronome pour goûter les plats, mais un praticien de la cuisine, comme Alexandre Dumas d'ailleurs. Encore que dans son grand dictionnaire, Alexandre Dumas, c'est un livre à la fois de cuisine, certaines qu'il a expérimentées, d'imagination, parce qu'il y a des recettes tout à fait baroques et étranges, comme le kangourou ou surtout le pied d'éléphant. Paradoxe amusant, les éléphants ont été mangés pendant le siège de Paris, mais Alexandre Dumas était mort juste avant et son dictionnaire est paru après. Et il s'était cependant fait accompagner par un grand cuisinier qui s'appelait Duglaret.
Est-ce qu'il y a dans la musique de Rossini quelque chose que vous trouvez particulièrement gourmand, quelque chose qui fait directement lien avec l'idée de cuisiner, l'idée d'être à table ensemble? Lui compare clairement la vie à un opéra, à un repas. Est-ce qu'à l'oreille vous faites cette distinction?
À l'oreille peut-être pas, mais connaissant par cœur l'histoire de Rossini, ses deux passions étaient la table et la musique. Et je dois avouer qu'il y a quand même un côté joyeux, enjoué, et même si le repas apparaît rarement sur la table de l'opéra, ça donne envie. J'ai vu récemment Tancrède, et c'est quand même quelque chose. C'est une musique enjouée, dirais-je.
Se trovi in piazza qualche ragazza, tengo che quella cerca menar, tengo che quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza alcun ordine la razzosia, chi il minuetto, chi la polia, chi la levanna, farai valar, chi il minuetto, farai valar, chi la levanna, farai valar, chi la polia, farai valar. E io frattanto dall'altro canto, con questa quella uomoreggiar, alla mia lista, don Marmatina, dona Regina, deve aumentar. Alla mia lista, dona Regina, deve aumentar. Se tu in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menor. parla la mia lista, domani mattina d'una regina deve metà, senza colore la razzia, il minuetto, il napolia, il la levanna, pala e palò. La mia lista, domani mattina d'una regina deve metà, una regina deve aumentar, una regina deve aumentar, deve aumentar, deve aumentar, devi aumentar.
En voilà encore de la gaieté, Jean Vito. Vous avez choisi de faire entendre pour cette carte blanche musicale en troisième choix un extrait de l'opéra Don Giovanni de Mozart. Il s'agit ici de l'air du champagne et d'une interprétation de Nicolas Djorov sous la direction d'Otto Klemperer. J'espère que je prononce tout ce beau monde correctement. Pourquoi ce choix ?
Bien, parce que pour commencer, le champagne, c'est quand même l'aliment ou le vin festif par excellence. Deuxièmement, parce que dans mon goût personnel, Don Juan, c'est peut-être le roi des opéras.
Pour quelle raison ? Question de goût.
De question de goût, et puis, la musique est exceptionnelle, le livret est non moins extraordinaire, et en plus, c'est une vision, comment dire, métaphorique de l'existence qui n'est pas inintéressante. Donc, le champagne, qui est un vin relativement récent, parce que si on fabriquait du vin en champagne depuis probablement un millénaire, puisque les cépages sont les mêmes que ceux de la Bourgogne, sauf le Pinot Meunier, n'a pu devenir un vin pétillant et conservé en tant que tel qu'à partir du début du XVIIIe siècle. Probablement pas d'ailleurs sous la houlette de Dom Pérignon. La principale chose qui a permis au vin de travailler et de devenir pétillant était l'amélioration de la verrerie. Alors le champagne reste quand même associé à tout caractère festif. Si maintenant on ne le boit plus trop au dessert, on le boit plutôt en apéritif. Mais c'est quand même à la fois un des symboles de la Saint-Valentin, pourrions-nous dire. C'est également un apéritif qui plaît à tous et qui ne présente pas le défaut des alcools d'entraîner une ivresse rapide.
Oh bah ça dépend.
Ça dépend combien vous en buvez.
Bah ça dépend qui, j'imagine aussi. Vous n'avez jamais été ivre avec une coupe de champagne ?
Non.
Ah oui, on ne doit pas avoir les mêmes habitudes.
Non, mais je pense que vous avez raison, l'ivresse dépend beaucoup des gens, dépend beaucoup de la taille, du poids. Ça, c'est directement en fonction, comme on dit, de la surface corporelle. Et puis ça dépend si on mange ou pas en même temps. Quand on mange, l'effet est dilué parce que l'estomac se vide plus lentement.
Alors vous êtes plutôt, puisque vous dites que c'est une boisson qui ou bien se consomme du côté de l'apéritif ou bien plutôt se consomme du côté du dessert, vous êtes plutôt de quel camp alors ?
Du camp de l'apéritif.
Du camp de l'apéritif. Avant oui. toute chose,
Avant toute
un,
chose
peu de champagne.
Un peu de champagne.
Ça vous ouvre l'appétit ? Ça vous met dans
ah
une
oui,
sorte de disposition ?
Je trouve que ça ouvre l'appétit, ça me met dans d'agréables dispositions.
Pour en revenir à l'air du champagne et à cet opéra de Mozart, à quel moment il intervient et qu'est-ce que ça raconte ?
Eh bien, l'air du champagne, en fait, signifie que Don Juan, malgré toutes les menaces qui s'accumulent contre lui, a décidé de continuer à vivre. Et ça apparaît juste avant que la réapparition de la statue du commandeur, qui est un grand maman. Et donc, il continue dans sa philosophie, sans rien changer, et on peut le concevoir.
Il s'apprête à donner une fête et il donne ses dernières instructions à son valet, le Porello. Il lui dit « Tant que le vin leur réchauffe la tête, fais préparer une grande fête. Si tu trouves sur la place quelques filles, tâche de l'amener elle aussi avec toi. Que la danse n'obéisse à nulle ordonnance. Tu feras danser à l'une le menuet, à l'autre la contredanse et à celle-ci l'allemande. Et moi, pendant ce temps de mon côté, à celle-ci et à celle-là, je veux faire la cour. À demain matin, ma liste devra être plus longue d'une dizaine. » Donc on sent que l'opulence est au menu et que finalement la fête va en effet continuer.
Il y a pas de raison que ça continuer, oui.
Jean Vito, c'est votre quatrième choix, cette magnifique toccata en ut majeur pour orgue, signée Jean-Sébastien Bach et interprétée ici par Gaston Litet. C'est une œuvre de jeunesse, il la compose aux alentours de 1710-1717. En dehors du très grand plaisir de l'entendre, qu'est-ce qui justifie votre choix ?
Alors la date est amusante parce que c'est exactement en 1710 qu'un facteur d'orgue, d'origine allemand depuis devenu français, a écrit un étrange recueil, Le facteur d'orgue et cuisinier pour la nuit de carnaval, qui n'a été publié qu'en 1933. Alors il s'explique, et ça vaut la peine d'être lu, « Pour que tout le monde comprenne ce qu'est un orgue, il me faut user d'une allégorie, mais à quoi comparer un orgue pour me faire comprendre de tout le monde à un grand repas pour de grands seigneurs ?» Et alors il compare le soufflet à l'eau, les registres au hachoir, le clavier à l'assiette, les doigts de l'organiste au couteau et la fourchette. Et il attribue à chaque jeu un plat, la trompette au rôti, le cornet à la sauce au capre, la voix humaine à la langue de bœuf, la bombarde à la cuisse ou à la tête de sanglier. Et quant à la pédale de l'orgue, pour un grand repas, c'est le vin de Bourgogne. C'est quand même quelque chose qui a été oublié et qui est quand même très drôle dans l'interprétation de la cuisine.
Alors vous disiez aussi qu'il y avait dans ce choix de l'orgue et dans ce choix de cette toccata de Bach, l'idée d'un mélange, d'un grand mélange, que le repas se devait être le lieu du mélange. Est-ce que c'est le mélange des saveurs ? Est-ce que c'est le mélange des êtres qui sont autour de la table ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette idée de mélange ?
Ah ben, y a un mélange des saveurs, ça c'est sûr, également un mélange des convives, un mélange des conversations. Je crois que c'est pour ça que je dis souvent que manger est un acte culturel.
Quand vous parliez, par exemple, je ne sais pas, des grands repas gastronomiques, évidemment, la majorité d'entre nous n'ont pas l'occasion d'assister à ce genre de grands repas. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe ? Qui est autour de la table ? Est-ce qu'il y a des femmes, justement ? On parlait des grands banquets pré-révolutionnaires au XIXe siècle. On disait que les femmes étaient redoutablement absentes. Est-ce que lors des grands repas gastronomiques, elles sont de nouveau là au XXIe siècle ?
Cela dépend des associations. Il y en a où elles sont absentes et d'autres où elles sont présentes.
Volontairement absentes ? Il y a encore des associations qui les gardent au dehors des tablés ?
Il y en a encore.
Il y en a encore. Pour quelles raisons ? Ou c'est exclusivement masculin ?
Elles sont exclusivement masculines parce qu'il y a eu des précédents dans la première moitié du siècle qui n'ont pas toujours été bien vécus.
C'est-à-dire ?
Ah, des histoires de cœur.
D'accord. Alors, dans ce cas-là, vous préférez exclure les femmes pour vous mettre à l'abri des histoires de cœur.
C'est historique, mais il n'y a rien dans les statuts qui l'interdisent.
Alors, à quoi ressemblent les dîners gastronomiques ?
Ah ben, normalement, dans les associations de gastronomes, il y a un des membres qui organise le repas, le répète auparavant pour s'assurer que c'est faisable, que c'est bon et que ça collera pour le nombre de convives prévus, et que l'on appelle le brigadier. Il le fait servir avec le chef du restaurant dans lequel il officie, à ses confrères ou camarades, ça dépend des associations. Et après, il y a une critique, qui est donc factuelle sur les produits, mais souvent aussi historique et littéraire, et parfois acerbe.
C'est une critique qui a lieu, par exemple, on vient de servir l'entrée, à critiquer l'entrée attendez la fin du repas ?
Habituellement, c'est un critique désigné ou le président, ça dépend des associations, qui fait la critique après le café.
Après le café ? Et tout le monde écoute ou c'est discuté ?
Tout le monde écoute.
Quand vous dites que c'est un repas qui est répété pour vérifier qu'il y en aura assez pour les convives
et
que
c'est bon ? Non, ce n'est pas qu'il y en aura assez. On peut avoir une idée et la réalisation du plat peut ne pas correspondre à l'idée. Ça, c'est la première limite. La deuxième, c'est que le chef n'a peut-être pas l'habitude de faire ce à quoi vous avez pensé, et que quand vous goûtez, ça ne ressemble pas du tout à ce que vous aviez pensé non plus. Et la troisième, qui est également à prendre en compte, c'est qu'on peut faire un magnifique repas pour 6 personnes, mais qui n'est pas transposable pour 40.
Quand vous dites que vous vous organisez avec un chef, c'est-à-dire que vous choisissez un restaurant, vous allez le voir et vous lui dites voilà, bonjour monsieur, ou bonjour madame, parce qu'il existe quand même des grands chefs femmes, et je voudrais venir avec mes 40 camarades ou 40 confrères. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ça se passe comme ça ?
Ça se passe comme ça.
Qui paye ?
À chaque convive.
Chaque convive paye. Et ensuite, donc, après le repas, après le café, vous discutez de la, voilà, du bon menu, de la bonne réalisation des plats.
Oui, après la critique, on peut en discuter entre nous.
Et vous associez le chef à cette discussion ?
Le chef est souvent présent lors de la critique.
C'est un moment agréable ou pas ?
C'est un moment très agréable, d'autant qu'on essaye de dire les choses de façon gentille.
Et cultivée, j'imagine.
Et cultivée.
Au menu de cette émission, toujours à la même heure, il y a de la poésie. Et apprenant la disparition du poète Jean-Claude Pirotte le 24 mai dernier, nous décidions, lundi de lui rendre hommage toute cette semaine en rediffusant un choix effectué par Laurence Courtois dans son recueil « La joie » paru aux éditions de la Table Ronde. Voilà ce qu'en disait le poète. « Les saints les plus passionnants sont ceux dont l'existence n'est attestée que par la tradition populaire. C'est le cas de Saint Fromont, dont on célèbre le culte non reconnu par l'Église mais constant depuis des siècles sur le plateau de La Joie, un terroir du Jura suisse entre Boncourt et Porrentruy, demeuré à l'écart et toujours attaché aux anciennes croyances. J'ai voulu connaître le paysage où s'est déroulée, au temps du colombanisme, la vie rêvée du Saint Fromont. Nous avons séjourné là, ma compagne et moi, sous l'invocation du Saint pendant des mois. Il en est résulté cet hommage aux coteaux forestiers, aux friches et aux miracles, alors que le mont Théry à l'est borne de sa masse mouvante l'enclave de La Joie. Ce livre est aussi un hommage à Pierre-Olivier Walzer, l'auteur admirable et ludique des Saints du Jura. Peut-être ai-je réussi à redonner vie à Fromont, ermite du désert qui m'a secrètement invité à le redécouvrir dans un mélange de foi et de paganisme. Ces mots, signés Jean-Claude Pirotte, introduisent ce qu'il a écrit et ils sont lus par Hervé Pierre. On l'écoute.
Sous un ciel de lait caillé, c'est l'épreuve du matin. Pas un souffle en ce désert, nul trait de franche lumière. On prend la place d'un autre. On se demande où la bise, en quel pays elle épuise les vergers et les épôtres. On prend la place d'un saint, mais on ne la garde pas. On a le cœur retourné, on découvre que la joie bascule à travers les siècles et que l'aube est inconnue. Ou venu d'un mauvais rêve, et que la pluie tarde, et que l'ombre des vieux arbres a disparu de la terre, comme l'herbe et les chemins sont dépourvus de matière.
Jean Vito, c'est le dernier choix musical de votre carte blanche musicale. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, il s'agit d'une musique qui a été utilisée dans un recueil probablement unique qui s'appelle « Le festin joyeux d'un nommé Lebas » paru en 1738, où les recettes sont en musique. Alors, je vais vous lire une recette qui est celle du brochet rôti à la Bavière. D'une farce bien fine, l'on remplit un brochet, puis à la broche on le met, rissolé de bonne mine, l'amusant avec du vin et du beurre du plus fin. Dans la léchette, à mettre de l'oignon, du poivre à discrétion et du sel, je vous invite, puis un ragoût y joindre, dessus quand vous servirez. Donc c'est le seul exemple de recette en musique de cette époque, et d'ailleurs, globalement, pratiquement, jusqu'à notre époque, je ne vois guère que Bruno Mantovani qui a écrit des morceaux de musique en rapport avec de la gastronomie. Et c'est aussi un grand gastronome.
On entend ici une recette assez peu précise, par exemple en termes de quantité.
Les recettes jusqu'au XXe siècle sont toutes des recettes où il y a un nombre de présupposés considérables.
Comme,
c'est-à-dire comme les moyens de cuisson, les moyens, la composition des aliments, la quantité, le temps de cuisson, tout ça est considéré comme présupposé. Et donc, c'est ce qui rend si difficile l'interprétation, j'allais dire archéologique, des recettes du temps passé, et qu'on n'a aucune idée, les produits ayant sans doute changé, et les moyens de préparation également, de si ça avait le goût de ce qui était fait à l'époque. Les premières recettes à peu près utilisables datent de l'extrême fin du XVIIIe siècle, avec la cuisinière bourgeoise de Menon, qui a été un très grand succès de librairie. Et ensuite, on en vient à des recettes qui sont plus utilisables, enfin au moins dans les manuels destinés, j'allais dire, aux bourgeois, pas la haute cuisine comme Antonin Carême ou Gouffet, qui sont quand même pas réalisables dans une grande brigade. Et donc, il faut savoir que donc à cette époque-là, tout était considéré comme présupposé, sauf les ingrédients. C'est pour ça que toutes les recettes ne signalent quasiment que l'ingrédient, sans temps de cuisson ni autre quantité précise.
Quand vous dites présupposé, ça signifie que c'est à la fois à la discrétion de la cuisinière ou du cuisinier, mais c'est aussi que l'on imagine qu'ils sont tout à fait capables de savoir le temps de cuisson exact pour des pommes de terre, pour une pâté, piètre cuisinière que je n'ai même pas donné d'exemple.
C'est-à-dire que c'était quand même essentiellement des recueils destinés sinon des professionnels, ou au moins de très bons praticiens. Et on n'envisageait pas à l'époque que Monsieur Tout-le-Monde fasse de la cuisine comme Monsieur Jourdain.
Quand on entend la recette que vous venez de lire, on est très attentif à la langue qui est utilisée. C'est une langue qui est extrêmement joyeuse, qui va d'ailleurs dans le sens du titre, le festin joyeux. Et il y a l'idée d'une invitation, on vous invite à faire ceci, sentez-vous libre de faire cela, etc. etc. Est-ce que ça va dans ce sens-là pendant tout le recueil? C'est une langue comme ça, charnelle, charnue?
Tout le recueil est dans le même sens. Comme d'ailleurs les livres de cuisine de l'époque, ils sont finalement, ils rajoutent toujours des côtés poétique au côté factuel.
Vous, Jean Vito, qui avez écrit de nombreux ouvrages sur la gastronomie et qui, aujourd'hui, j'imagine, est en mesure de la définir, qu'est-ce que vous en donneriez comme définition la plus précise? Qu'est-ce que c'est quand on dit la gastronomie?
Alors, la gastronomie, c'est un acte culturel. C'est veillant à utiliser des produits fabriqués de préférence de façon artisanale, accommodés au mieux pour le plus grand plaisir des sens et de notre palais.
Et donc c'est plutôt la gastronomie se situe plutôt du côté de ceux qui fabriquent, de ceux qui font la cuisine, ou se situe plutôt du côté de ceux qui goûtent? Parce que là vous parlez de la réalisation, de la préparation des repas.
Ah non, mais les papilles, c'est celui qui goûte. Donc je pense qu'il faut les trois, mais que le dernier, le juge en dernier, c'est quand même celui qui goûte. C'est le gastronome qui a quand même son avis à donner. Parce que d'une part, il a un certain nombre d'expériences passées, et puis c'est ce qu'il attend d'un plat, et il peut être surpris en bien ou en mal. Et surtout dans les tendances contemporaines, où l'on tend à mélanger des produits a priori peu compatibles.
Donc vous êtes à la fois amateur de surprises, mais pas non plus téméraire.
Je pense qu'il y a des excellentes surprises et d'autres qui sont moins bonnes. Il y a des produits, on ne peut pas tout faire ou faire n'importe quoi avec une huître. On ne peut pas, il y a un certain nombre. Je pense que la nouvelle cuisine qui a suscité des critiques quand elle est sortie, d'ailleurs tout comme les modifications de la cuisine au XIXe siècle, puisque Voltaire en parle dans une de ses lettres, a eu d'excellents résultats en, comment dire, et dépoussiérant la cuisine de Carême et d'Escoffier. Et toute la cuisine contemporaine en est dérivée. Mais d'un autre côté, il y a une autre tendance qui se fait jour, qui est le retour à un âge d'or, c'est-à-dire c'est de là l'envolée de la cuisine des terroirs. Donc je pense que la cuisine est très souvent le mélange de deux phénomènes. D'une part, la sophistication croissante de la haute cuisine, et d'autre part, le retour à un âge d'or.
Grimaud de la Reynière, l'inventeur de la gastronomie pour les surdoués, on a dit pour tout le monde, c'est aux éditions France Empire et c'est votre dernier livre, Jean Vito. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en musique cet après-midi pour écouter cette émission et toutes celles qui l'ont précédée. franceculture.fr pour se donner des nouvelles et des programmes. Twitter @paslapeine2. Vous pouvez vous abonner sur le même site franceculture.fr aux différents podcasts. Aux manettes aujourd'hui, c'était Théo Gomard. Merci à Céline Geoffroy et Laurence Courtois. Cyril Baer, Inès Duperron et Romain de Becdelièvre qui pensent et préparent cette émission avec moi. Une émission réalisée, cuisinée par Anne-Laure Chanel. À lundi.